Vous écoutez RTL.
RTL.
La pièce de monnaie est l'un des rares objets qui existent aux origines même de toutes les civilisations et qui est encore utilisé quotidiennement par l'ensemble de la population mondiale sur tous les continents.
La curiosité est un vilain défaut.
En France, c'est la monnaie de Paris, en quelque sorte la plus vieille entreprise du monde, qui assure aujourd'hui la fabrication de la monnaie.
Jusqu'à 22h.
Si la fabrication de la monnaie est dorénavant ultra-moderne et obéit à des processus toujours plus sophistiqués, il n'en a pas toujours été ainsi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on a reconnu la voix
recrute,
de...
nous.
Hein, de
Claire Chazal. On a recruté Claire Chazal pour
c'est
lancer la séquence.
C'est classe, sur RTL.
Joli, quand même.
C'est une histoire de pièces sonnantes et trébuchantes que on va vous raconter ce soir dans La Curiosité. 1150 ans d'histoire de notre monnaie et de celle de la plus ancienne institution française encore en activité. C'est la Monnaie de Paris. Bonsoir Christophe Beau.
Bonsoir.
Vous êtes le président directeur général de la Monnaie de Paris. À vos côtés, l'écrivain Nicolas Détiendorf. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez chez Albin Michel La Monnaie de Paris, 1150 ans d'histoire. On va prendre le temps évidemment de raconter cette histoire absolument passionnante, mais pour commencer, la monnaie de Paris, elle sert toujours à quelque chose aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr.
À quoi ?
On fabrique deux choses.
À quoi servez-vous ?
À quoi servons-nous ? Ça, c'est la
sympa
question
l'accueil, hein.
Existentielle par excellence.
Bienvenue dans la curiosité.
Merci, merci. Merci RTL, vraiment. Alors, nous fabriquons les euros des Français. Les pièces de monnaie qui sont dans vos porte-monnaies.
Là, d'un seul coup, ça calme.
Ça calme. C'est la mission de service public, qu'on appelle mission même régalienne par excellence. Et on fabrique les pièces de monnaie des Français depuis les origines, donc depuis, vous l'avez rappelé, presque 12 siècles.
Mais ce n'est pas fabriqué à Paris même.
Non, c'est fabriqué à Pessac.
C'était ça ma petite nuance.
À côté de Bordeaux, donc en Gironde, on a une usine moderne qui date d'il y a quelques années. Mais à Paris, on fabrique aussi encore des pièces. C'est plutôt des pièces de collection, des pièces en or, des pièces en argent, des décorations officielles, les croix de Légion d'honneur, du mérite, etc. Médailles aussi pour les entreprises ou pour les collectivités locales.
Il y en a beaucoup chaque année de ces médailles et décorations.
Plusieurs centaines de milliers d'objets et donc sont des produits d'art en quelque sorte. Ils ont tous un point commun, c'est qu'en fait ce sont un peu des marqueurs de mémoire. Quand vous offrez une médaille de baptême, vous la gardez votre vie entière pour commémorer cet événement. Quand vous recevez une décoration officielle ou quand vous recevez une médaille avec votre nom gravé derrière, c'est un objet de mémoire et donc c'est important, ça se garde.
Combien de personnes travaillent pour la Monnaie de Paris et quel type de métier, quel corps de métier ?
Alors on a aujourd'hui 500 salariés, 300 à Paris et 200 à Pessac. C'est des métiers très très divers parce qu'on y trouve et notamment des métiers d'art comme les graveurs, les émailleurs, les estampeurs, les passeurs aux eaux fortes. Donc des noms qui sont assez poétiques et qui viennent du fond des âges et qui sont des traditions qui se perpétuent. On est même entreprise du patrimoine vivant, c'est-à-dire c'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture et on a des meilleurs ouvriers de France et ce sont vraiment des artisans d'art.
C'est ce que j'allais vous demander, ça vous permettez aussi à des métiers de se perpétuer ?
Oui, souvent ce sont des gens qui sont formés par l'école Boulle ou l'école Estienne qui donc font travailler sur la matière et donc c'est vraiment l'art de la main.
Vous avez un nom prédestiné, Nicolas Détiendorf, vous voilà. Êtes écrivain, 1150 ans d'histoire, ça nous ramène quoi ? Ça Charles le Chauve ?
Ça nous ramène en 864, le fameux édit de Pitres, c'est là que la monnaie commence à être organisée, c'est-à-dire que qui dit État dit monnaie, parce que voilà, ça centralise, et c'est Charles le Chauve.
C'est-à-dire qu'avant c'est n'importe quoi, chacun a sa petite monnaie.
Non, mais il y avait des ateliers partout, disons que c'est la première fois qu'on commence vraiment à centralisé et il y a le fameux denier de Charles le Chauve qui est la première pièce de monnaie, officielle battue par la monnaie de Paris.
Enfin,
par la monnaie tout court. Elle ressemble à quoi ? En fait, on ne voit pas le roi. Il y a deux dissitations en latin qui dit que le roi est roi par la grâce de Dieu et il y a marqué monnaie du palais. C'était au Moyen-Âge, il n'y avait pas encore la représentation physique du roi.
Il y a une pièce cachée dans votre livre, qui est dans le fond de la boîte incroyable, ronde et dorée, qui représente une pièce. C'est quoi cette pièce ?
Alors, ce n'est pas une pièce, si je peux me permettre, c'est une médaille.
C'est une médaille.
Voilà. Nuance. Ouais.
Alors, c'est quoi cette médaille ?
Je partais faire du shopping avec, très mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on voit sur cette médaille ?
C'est une médaille qui représente la monnaie de Paris, sa belle façade sur les quais de la Seine, en face du Louvre, et qui est la reproduction d'une médaille ancienne qui date de l'Ancien Régime, et qu'on a réédité pour l'occasion. C'est une édition limitée. Et donc ceux qui achèteront le livre trouveront un petit peu caché comme ça sous le fond de l'emballage cette médaille en édition limitée et numérotée.
Il y en a 7000 et chaque coffret numéroté.
Ah oui, donc ce sera un objet rare. Pour bien comprendre, vous nous avez décrit une situation où tout le monde battait la monnaie, c'est ça, dans chaque province avant Charles le Chauve. Il y avait différents ateliers dans les grandes villes.
Plusieurs hôtels de la monnaie peut-être à l'époque,
oui,
justement.
Oui, on trouve un réseau d'une cinquantaine d'hôtels des monnaies partout en France. Et d'ailleurs, l'an dernier, on a fêté nos 1150 ans et on a fait une exposition itinérante sur les anciens sites des hôtels des monnaies. Alors certains existent encore, ils ont été parfois transformés en d'autres fonctions. D'autres ont été rasés, mais c'est souvent des témoignages assez émouvants de l'histoire féodale. Et en gros, c'est vers la fin du Moyen-Âge que la production de monnaie est centralisée dans les mains du roi. Hein, mais... Autrefois, donc, les seigneurs avaient le droit de mettre
en monnaie. Ah oui, c'est ça, parce que c'est de la propagande, la monnaie aussi. C'est une façon de se... Oui. D'affirmer son pouvoir, de se montrer.
C'est un des éléments qui, effectivement, a contribué à créer la nation française, en quelque sorte, parce qu'il y avait la langue. Et l'édit de Villers-Cotterêts, François Ier, a unifié le français partout en France. Bon. Et puis, il y a la justice, l'armée et la monnaie. Au fond, c'est un des quatre piliers qui forment une nation.
Nicolas d'Etienne-d'Orve, est-ce que c'est Louis XIII qui comprend vraiment l'importance de cette monnaie quand il lance en 1640 les fameux louis d'or?
Bah, d'abord, il lui donne son nom, donc il s'identifie à la monnaie, et surtout, il y a sa bobine dessus. Donc, pour la première fois, c'est aussi le début des presses à balancier, c'est-à-dire que c'est vraiment des monnaies qui ont globalement toutes la même taille, c'est plus des choses faites à la main, et le louis d'or devient la première incarnation, disons, physique du roi par la monnaie.
Et puis Louis XIII, qui quand même pousse la coquetterie à faire réaliser de nouveaux portraits à chaque nouvelle frappe de pièces.
Ah bah ça, tous les rois le faisaient. Louis XIV en a fait un nombre infini, parce qu'en fait, la propagande, il n'y avait pas la télévision à l'époque, il n'y avait pas le cinéma. Donc, pour passer le visage, pour même qu'on connaisse la tête du roi, eh bah en fait, on se mettait sur la pièce de monnaie, parce que c'était la chose qui se promenait le plus facilement dans les poches.
Ce qui pouvait jouer des tours.
On a parlé de Varennes.
Bah oui, voilà. Varennes, forcément. Voilà. S'il n'y avait pas eu les pièces de monnaie à l'effigie de Louis XVI, peut-être n'aurait-il
la trahison monétaire.
C'est d'autant plus cruel que c'est Louis XVI qui a inauguré la monnaie de Paris. Le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui en face du Louvre. Et c'est à cause de la monnaie de Paris, en quelque sorte, qu'il sera reconnu à Varennes, effectivement, par l'aubergiste sur une pièce.
Jean-Baptiste Drouet. Voilà.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, dans la curiosité, on s'intéresse aux pièces que nous avons, ou que nous avons eues dans notre porte-monnaie.
Vous devez de l'argent d'ailleurs, Thomas.
Oh non, ça c'est pas vrai.
Quelques louis d'or.
Je dois peut-être un euro à André Facetta, c'est possible, j'ai peut-être oublié de te rembourser.
Notre réalisateur,
André.
Il fait un
voilà.
peu mon
deux. En tout cas, on va vous révéler leur secret de fabrication avec l'écrivain Nicolas d'Etienne-d'Orve et le président directeur général de la Monnaie de Paris, Christophe Beau. Évidemment, la façon de frapper la monnaie a beaucoup évolué au fil des siècles, Nicolas d'Etienne-d'Orve. Ça c'est quoi? Automatisé, mécanisé, électrifié?
Au début, on fait ça avec un marteau. C'est-à-dire qu'il y a vous avez le petit flan, c'est-à-dire la petite pièce.
Ah, c'est quoi le flan déjà?
C'est du métal.
Du métal.
Et puis au départ, ouais. Jusqu'au XVIIe siècle, on faisait ça avec un marteau, à la main. Ensuite, on est passé avec la frappe au balancier, qui est une sorte de. Qui est comme, un peu comme une imprimerie. Et en fait, c'est, quand la monnaie de Paris a été créée, c'était les frappes au balancier. Et puis, au début du 19e, c'est l'industrialisation. Il y a des machines allemandes qui arrivent. Et là, c'est de la presse monétaire. Là, tout ça se mécanise. Alors, au départ, ils faisaient 15 pièces par minute. Et maintenant, à Pessac, ils en font 800 par minute. Donc, voilà.
Il y a du progrès.
Christophe Beau, est-ce que la composition de ces pièces a changé au fil des siècles? Vous allez me dire oui.
Et oui, je vous dis oui, effectivement. Puisque au départ, une pièce, elle est censée représenter la valeur du métal qui est dedans. Donc c'est souvent du métal précieux, bronze, argent, or. Et puis petit à petit, vous savez que les seigneurs, justement, limaient les pièces, réduisaient la proportion de métal précieux. Hein.
Quelle mesquinerie.
Oui, c'est comme ça que finalement on a créé la monnaie fiduciaire dans laquelle on a confiance parce qu'elle ne représente plus du tout sa vraie valeur en métal, mais par contre, elle a ce qu'on appelle une valeur faciale. Et donc, elle est frappée sur un métal qui n'a plus de valeur en soi, mais qui a au contraire une valeur symbolique, qui est celle qui est écrite dessus.
Alors, c'est quoi ce métal?
Alors aujourd'hui, les fameux métaux qu'on utilise, il y en a de toutes les sortes. Pour parler de la gamme des euros que les Français connaissent bien. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes, c'est une petite couche d'acier très fine recouverte de cuivre, d'où leur apparence rouge au départ. Ouais. Voilà.
Cette pièce de 1 euro que je dois à André Facetta, qui est bicolore.
Alors, à l'autre bout de l'échelle, effectivement.
Je suis allé trop vite, pardon.
Non, mais la 1 et la 2 euros, c'est un mélange de maïchor jaune pour la partie jaune.
Qu'est-ce
alors, le maïchor, c'est un alliage assez compliqué qui comprend du cuivre, du zinc et du nickel. Voilà. Et puis, il y a un cœur qui est ce qu'on appelle un sandwich, c'est-à-dire qu'il y a une couche de nickel au milieu, et puis un autre métal qui est un composé de cuivre et de zinc aussi, sur le dessous et sur le dessus. L'idée, c'est qu'il y a du nickel dedans parce que ça lui donne des propriétés magnétiques, mais le nickel ne doit pas être touché par la peau pour éviter les allergies.
Ah donc oui, il faut trouver, voilà.
Donc c'est assez technique en fait. On dirait comme ça c'est juste un bout de métal, mais en fait c'est assez compliqué parce que quand vous mettez ensuite une pièce dans une machine pour acheter votre Coca ou quelque chose comme ça, ce qui reconnaît la pièce, c'est
Pepsi,
pas sa taille,
hein.
Contrairement au Pepsi. Oui, c'est vrai qu'il faut pas citer de marque, bon, mais...
non,
ou toute autre boisson gazeuse.
Vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez choisi la rouge, donc c'est bon.
Je vais prendre un minute mail si ça vous dérange pas.
La rouge aux couleurs d'RTL, donc tout va bien.
Mais en fait, ce que croient les gens, c'est que c'est la taille de la pièce qui permet d'actionner la machine. Du tout, c'est son magnétisme.
Ah oui.
Voilà, c'est une reconnaissance magique. D'où l'importance des alliages et du métal.
Mais Christophe, alors je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais par exemple, une pièce de 1 euro, ça coûte combien à la fabrication?
Ça coûte environ 15 centimes. Alors nous, en tant que Monnaie de Paris, on la vend 15 centimes à l'État. C'est-à-dire qu'on fait un petit bénéfice dessus, mais qui est juste un petit bénéfice d'exploitation. Et c'est l'État qui, lui, encaisse la différence, qu'on appelle d'ailleurs le droit de seigneuriage. Alors on y revient.
C'est encore ce terme-là.
C'est un souvenir de l'époque où c'était les seigneurs qui frappaient monnaie. Mmh. Et donc c'est l'État qui, c'est bien normal d'ailleurs, puisque c'est un monopole de battre la monnaie, donc c'est l'État qui empoche, si j'ose dire, la différence entre le coût de fabrication et la valeur faciale.
Enfin, un petit saut dans le temps, en 1958, le nouveau franc est lancé par De Gaulle. C'est une renaissance pour la Monnaie de Paris?
Alors, c'est une renaissance, oui, parce qu'il a fallu à ce moment-là produire énormément de pièces de nouveaux francs, donc en termes d'activité industrielle, ça a été considérable, de même qu'a été considérable la création de l'euro quelques décennies plus tard.
On va raconter, bien
et,
sûr.
Et en même temps, c'est surtout une renaissance, je dirais, économique pour le pays à l'époque, puisqu'il s'agit de mettre fin aux dévaluations et donc de recréer un franc fort, un nouveau franc qui soit plus fort.
Mais alors, ce nouveau franc apparaît, il faut donc chercher une nouvelle identité monétaire, c'est ça? Un nouveau visage?
Oui, alors curieusement, on est allé chercher dans le passé, parce que l'histoire monétaire, c'est un petit peu une grande répétition. Et donc, pour illustrer le nouveau franc de De Gaulle dans les années 60, on est allé chercher le symbole de la semeuse, qui date, lui, de la fin du 19e siècle. Donc, il y a quand même 70 ans de plus.
Et qui symbolise quoi,
alors,
cette semeuse?
La semeuse, alors, c'est un dessin qui a été fait par Oscar Rotti, qui est un grand graveur de la fin du 19e siècle. Et au départ, ça devait être une médaille pour le ministère de l'Agriculture. Donc, on comprend bien l'idée de la semeuse. Et finalement, c'est ce dessin-là qui a été retenu pour les pièces de monnaie, parce qu'il symbolise assez bien l'idée que la semeuse ensemence un champ, et donc c'est un petit peu la monnaie qui irrigue l'économie, et ensuite la monnaie crée la monnaie, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a du commerce, qu'une économie s'enrichit, on le voit bien dans la croissance aujourd'hui, c'est toujours le même mécanisme. Et donc cette semeuse, c'est une figure au fond très symbolique de l'accroissement de la richesse quand on travaille et quand on fait du commerce.
Si le niveau est toujours sur les euros d'ailleurs,
Nicolas Siendo. Oui, c'est vrai qu'elle est toujours présente.
Sur les euros français, oui.
Et alors, je suis désolé Sidonie, mais vous avez fait un bond dans le temps là jusqu'en 1950.
Franc germinal.
Mon franc germinal.
Mais bien sûr,
alors,
je me doutais que vous alliez revenir avec.
Oui,
il n'est jamais trop tard.
Moi, je voudrais bien savoir qui l'a créé. C'était quand, tiens, le franc germinal?
Le franc germinal, c'est le franc de Napoléon. C'est le retour du franc. Il y a eu une grande éclipse avec le louis, parce que le franc, ça datait du Moyen-Âge. Il y avait le fameux franc de Jean le Bon. Et en fait, le franc, à l'origine, ça veut dire une monnaie franche et une monnaie affranchie. Ça n'a rien à voir avec la France, avec le mot franc.
Ça veut dire quoi, une monnaie libre?
Alors, en fait, très précisément, c'était pour libérer les enfants du roi Jean le Bon, qui étaient détenus en otage en Angleterre. Il y avait une rançon demandée, et donc pour les affranchir, pour les libérer, on a créé le franc. Donc il y a vraiment une anecdote, voilà.
Extraordinaire,
ah, c'est génial, ça. Ouais. Et donc le franc germinal.
Et le franc germinal, c'est l'arrivée d'une monnaie aussi simple, c'est-à-dire avec des francs, des centimes, parce qu'avant il y avait les deniers, il y avait des louis, c'est très compliqué, on s'en mêlait les crayons, un peu comme dans les mesures anglo-saxonnes. Et là, tout à coup, on a une monnaie qui ne va pas du tout bouger, qui ne va pas changer. Avec
un système décimal.
Très simple, facile à comprendre, facile à suivre, et qui aura duré jusqu'à l'arrivée de l'euro.
Et puis l'euro, parce que je tiens mon euro aussi, Thomas, va remplacer le franc et on va vous raconter dans un instant, c'est vrai, on va vous raconter dans un instant pourquoi nous sommes, nous les Français, les premiers à frapper ces euros et on les frappe où?
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue à vous les curieuses et les curieux qui nous rejoignez sur RTL. On est ensemble jusqu'à 22h.
Le 30 septembre dernier, on commémorait les 30 ans de la disparition de Simone Signoret. Le couple qu'elle formait avec Yves Montand était définitivement séparé, tout comme celui qu'il formait à Troyes avec Marilyn Monroe.
Mais tout de suite, une autre histoire sonnante et trébuchante, l'histoire de la Monnaie de Paris.
Vous me devez 2 euros, Thomas, en fait.
Jusqu'à 22h. C'est le cast of rice, c'est le cast, 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 cast.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bon, Abba, les Pink Floyd, téléphone, ok, mais Bryce de Nice, mais qu'est-ce qu'il vient faire là?
Pourquoi?
En Facetta? Pourquoi? Okay. Oui, j'ai bien compris, mais pourquoi? Vous auriez pu nous épargner ça.
Pour nous faire du bien, ce soir, on vous raconte l'histoire de notre monnaie. Nous sommes en compagnie de Christophe Beau, qui est le président directeur général de la Monnaie de Paris. Et nous sommes aussi en compagnie de l'écrivain Nicolas Détiendorf, qui publie un formidable bouquin enfoui dans une grande pièce de monnaie. La Monnaie de Paris, c'est aux éditions Albin Michel, l'euro qui remplace le franc. Et les Français sont les premiers à frapper ces euros. Pourquoi? Et puis c'était où qu'ils ont été frappés, ces euros?
Alors, ils sont frappés à Pessac depuis la fin des années 90. Il a fallu 2-3 ans pour préparer l'énorme production qui a ensuite été mise en place en 2000.
Donc, tout près de Bordeaux?
Tout près de Bordeaux, voilà, en Gironde. C'est une usine qui date des années 70, qui est très moderne, avec des presses, comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas, des presses très puissantes qui fabriquent 800 pièces à la seconde. Et donc, nous fabriquons les euros des Français, mais on fabrique aussi des euros pour d'autres pays, comme Malte, le Luxembourg, parfois la Grèce aussi, ça nous est arrivé d'en fabriquer, des pays qui n'ont pas forcément d'usine chez eux, et donc on fabrique leurs pièces.
Alors pourquoi la fabrication des pièces qui était habituellement produite à Paris, à l'Hôtel de la Monnaie, pourquoi tout d'un coup elle se trouve délocalisée à Pessac, près de Bordeaux?
Pour deux raisons très simples. La première, c'est une question d'ergonomie industrielle, enfin de facilité, je dirais,
pour avoir de l'espace, en fait.
Faire de la production de masse, parce que c'est quand même assez volumineux. Et puis aussi pour des raisons d'aménagement du territoire. On est dans les années 70, donc on a envie d'implanter, de réimplanter dans des régions des usines qui sont alors par essence régaliennes et qui pourraient être dans la capitale, mais qui, parce qu'on veut créer de l'emploi ailleurs, sont délocalisées donc dans d'autres villes.
J'imagine que c'est ultra protégé.
Oui, c'est une usine assez protégée, avec plusieurs systèmes que je ne décrirai pas à l'antenne, évidemment.
Ah, dommage.
Vous avez déjà été cambriolé?
Non, jamais. Non. En fait, notre chance, c'est que les pièces de monnaie sont assez lourdes. Alors, pour ceux qui voudraient faire un casse de monnaie, il faut être quand même très musclé pour transporter
une
somme importante. Voilà, avec un sac dans le dos, c'est pas facile.
Alors, l'Hôtel de la Monnaie, il est Quai Conti, à Paris. Ouais. Quand est-ce qu'il voit le jour?
Il est créé par Louis XV et Louis XVI, donc c'est une grande opération foncière à l'époque, assez compliquée, puisque au départ, à cet endroit-là, il y a des hôtels aristocratiques qui datent du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Et donc, c'est un architecte qui s'appelle Jacques-Denis Antoine qui crée ce grand bâtiment. C'est un bâtiment intéressant du point de vue de l'histoire de l'architecture, parce que c'est un petit peu la première grande manufacture royale, ça vient après les Gobelins, mais c'est un peu avant Sèvres, ou avant Arc-et-Senans aussi, les grandes salines de l'Est de la France. Et donc c'est cette architecture qui est à la fois palatiale d'un côté, avec cette grande façade au bord de la Seine qui est assez impressionnante, très austère,
oui, assez, froid,
assez majestueuse, mais qui est là pour montrer un peu la puissance du roi. Vous le disiez tout à l'heure, monnaie, c'est quelque chose, c'est un véhicule symbolique avant tout, hein, donc le roi exprime sa puissance par cette façade. Et puis derrière, en fait, on trouve un dédale de cour qui cache une manufacture au sens pré-industriel du terme, si j'ose dire. Voilà.
C'est-à-dire le lieu où on pressait la monnaie, tout simplement.
Le lieu, effectivement, où on frappait la monnaie. Ouais. Jusque,
on dit frapper la monnaie, pas presser.
Voilà. Ouais. On dit battre monnaie, pour ça c'est l'acte, je dirais, symbolique, et puis frapper les pièces pour l'acte technique.
Et les billets, c'est pas vous, pardon, mais c'est pas vous du tout.
Les billets sont imprimés, pour le coup.
Ouais.
Et c'est à Chamalières, donc dans le Massif central, et c'est la Banque de France qui s'en charge.
D'accord.
Voilà, il y a une répartition des tâches qui date de l'histoire, là aussi. Mmh. Et donc, ce grand bâtiment fait quand même 1 hectare au sol, en plein Paris. Donc, on y fabrique encore des pièces d'or et d'argent, comme je le disais tout à l'heure. Et surtout, on est en train de transformer ce bâtiment pour l'ouvrir au public et y apporter, je dirais, des offres différentes. Le restaurant Guy Savoie a ouvert ses portes il y a quelques mois. On a des expositions d'art contemporain qui y trouvent leur place. Et puis, dans quelques mois, on va ouvrir les ateliers eux-mêmes. Donc, ce sera un parcours de visite assez intéressant. Et toutes les questions que vous posez, qui sont tout à fait légitimes, eh bien, on pourra y répondre en allant visiter l'antre de la bête.
Pas seulement dans la curiosité.
Voilà, on pourra satisfaire sa curiosité en allant visiter l'antre de la bête et voir comment est-ce qu'on fabrique les pièces d'or, les pièces d'argent, comment toutes ces machines travaillent, et surtout comment le savoir-faire des hommes et des femmes qui y sont se transmet. Et c'est très joli à voir. Et moi, j'appelle ça le Murano du métal, parce qu'au fond, c'est un petit peu comme à Murano où on voit les souffleurs de verre. Et bien là, à la Monnaie de Paris, on pourra voir les graveurs, les artisans, les estampeurs.
Ça donne envie. Nicolas Détiendorf, vous racontez dans votre livre publié chez Albin Michel comment la pose de la première pierre de l'Hôtel de la Monnaie en 1771, on a caché quoi, des échantillons de pièces de monnaie venues d'un peu partout, c'est ça ?
Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une pierre creuse, la première pierre, ils ont mis une petite boîte en cèdre, et à l'intérieur, ils ont mis toutes les pièces qu'on pouvait trouver à l'époque dans toutes les matières. Et puis, il y avait un petit... On était le 30 avril 1771, ouais. Et il y avait un petit parchemin expliquant qui était là en latin. Et en fait, Louis XV n'est pas venu, le salopard, je ne sais pas où il était.
Pour l'inauguration ?
Voilà, pour la pose de la première pierre, il a envoyé son... Contrôleur général des finances.
Ah oui, parce que vous nous avez dit que c'était Louis XVI qui l'avait inauguré.
Il était en voyage à l'étranger.
Voilà. Ouais. C'est Joseph-Marie Théret qui était le contrôleur général des finances, le contrôleur général des finances à l'époque, qui était un abbé, qui donc l'a remplacé. Et en fait, sur le document, ça explique essentiellement que Louis XV n'est pas là et que c'est l'abbé qui l'a remplacé.
Voilà. Alors, ces échantillons de monnaie, c'est une idée qui vient d'où, en fait ?
On sait où ils sont ?
Alors, c'est une tradition assez fréquente quand on construit un grand bâtiment d'y mettre des pièces de monnaie, mais nous ne savons pas où elles sont.
Non.
Oui, effectivement, c'est quelque part dans les fondations, mais c'est un secret très très bien gardé.
Nicolas d'Etienne-Dorve, l'architecte qui a créé cet hôtel de la Monnaie, qu'il a imaginé Jacques-Denis Antoine, il y vivait dans cet hôtel de la Monnaie, et il a même été accusé et même emprisonné. Pour quelle raison ? Accusé de quoi ?
Non, sous la Révolution, on l'aura effectivement accusé d'avoir créer un souterrain qui passerait sous l'hôtel des Monnaies, qui éventuellement irait sous la Seine pour, en cas de siège, récupérer tous les deniers de l'État pour les emmener en Angleterre.
Mais bon, il aurait fait ça dans le dos c'est-à-dire de tout le monde.
C'était du fantasme. Le pauvre gars, on l'a mis en prison. Il est resté quelques mois. Ensuite, il est ressorti. Il est mort de sa belle mort en 1801. Et il est passé à travers les mailles du filet, heureusement.
C'était un endroit fréquenté, cet hôtel de la Monnaie, à partir de sa construction. C'était un lieu de visite, je ne sais pas, par exemple, des chefs d'État étrangers.
Oui, c'est assez curieux, finalement, de voir. La place que jouait ce bâtiment dans la vie sociale française ou parisienne de l'époque. Par exemple, le premier directeur des monnaies, ça a été Condorcet, plus connu pour être un philosophe, mais bon, c'est lui qui a été directeur de la Monnaie, et sa femme, Sophie de Condorcet, tenait salon comme on tenait salon à l'époque, comme la marquise du Deffand ou d'autres. Bon. Et puis ensuite, un peu plus tard, vous avez Franklin qui est venu. Donc Franklin, avant d'être président des États-Unis, a été le premier ambassadeur des États-Unis en France, Benjamin Franklin, et il a résidé à l'hôtel de la Monnaie. Et puis un peu plus tard, si on fait un bond dans l'histoire jusqu'à la fin du 19e siècle, le tsar Nicolas II est venu inaugurer tout un bâtiment de la Monnaie qui avait été agrandi à ce moment-là. Il a inauguré avec Félix Faure un grand hall de fabrication des médailles. Mmh. Et puis encore un peu plus tard, il y a le roi de Thaïlande qui est venu au début du 20e siècle. Et ce qui fait que depuis toujours, d'ailleurs, on fabrique des pièces et des médailles pour la cour de Thaïlande, parce que depuis cette visite qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années, eh bien la cour royale de Thaïlande reste fascinée par les fabrications de la monnaie de Paris.
Vous écoutez RTL.
On continue de parler d'argent, évidemment, dans la curiosité avec nos invités.
Vous avez
Christophe
tout ça, Thomas
Beau et l'écrivain de quoi, pardon ?
Vous avez tout ça ? C'était pas vos sous qui sont tombés là ?
Non, 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 c'est André Facetta qui rêve de gagner. Il est monégasque, vous savez, donc ça lui rappelle les jackpots de son enfance. On est avec Christophe Beau et l'écrivain Nicolas d'Etienne-Dorve pour parler de la Monnaie de Paris, la plus vieille institution de France encore en activité. Christophe Beau, vous dirigez cette institution. Depuis votre arrivée en 2007, le statut a changé, le statut de la Monnaie de Paris ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, alors effectivement, auparavant c'était une direction du ministère des Finances, un peu comme les douanes ou le budget, et maintenant c'est un établissement public industriel et commercial.
Qu'est-ce que ça change, ça ?
Ça change qu'on est géré comme une entreprise, donc on a un conseil d'administration, et surtout on est géré comme une entreprise avec une comptabilité d'entreprise, et donc du coup on est effectivement un peu plus autonome, même si on est complètement possédé par l'État, ça va de soi, vu notre mission, mais ça permet d'être plus réactif, plus mobile et donc plus rentable.
Alors c'est peut-être un peu étonnant de demander ça, enfin, et pas trop à la fois, à l'hôtel de la Monnaie, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent, pas vous Christophe Beau, mais l'hôtel de la Monnaie ?
On est bénéficiaire depuis 2008. Effectivement, il y a eu des années où l'entreprise était déficitaire. Mais depuis 2008, grâce à la création de nouveaux produits et puis aussi à meilleure gestion, je crois, eh bien, on est devenu bénéficiaire. Et on verse un dividende, du coup, à l'État, qui est notre propriétaire.
Donc, si vous êtes bien géré, l'État est content.
Et absolument.
Ouais. Ben, c'est bien.
Alors, après la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède, et l'Irlande qui a annoncé sa volonté de retirer de la circulation les pièces de 1 et 2 centimes. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher à produire, c'est ça qui les a motivés ?
Ils ont décidé de façon unilatérale, comme on dit, de ne plus les fabriquer. Mais en revanche, les pièces de 1 et 2 centimes sont toujours acceptées dans ces pays que vous venez de citer.
Ah.
Donc ça crée une situation un peu compliquée pour eux, parce qu'ils n'en produisent plus, mais ils sont obligés quand même de les accepter dans les commerces.
Alors,
ça coûte effectivement plus cher.
Ça coûte légèrement plus cher. Tout à l'heure, vous m'avez demandé le prix d'une pièce de 1 euro, donc oui. Ça coûte 15 centimes. Donc on voit que c'est un intérêt pour l'État de la fabriquer.
Bien sûr.
Pour la pièce de 1 et 2 centimes, c'est le contraire. Elle coûte légèrement plus cher à fabriquer que sa valeur. Donc une pièce de 1 centime, elle coûte à peu près entre 1,2 et 1,3 centimes. Mmh. Et pour la pièce de 2 centimes, elle coûte là un petit peu moins. C'est 1,6, 1,9 à peu près. Mmh. Ça dépend des D'accord. producteurs. Ça dépend aussi de qui la fabrique en Europe. Bon. Mais alors, donc il y a un débat là-dessus, pourquoi ça servirait à quelque chose, de fabriquer quelque chose qui coûte plus cher.
Ah oui.
Que, bon. En fait, il faut se dire qu'une pièce de 1 ou 2 centimes, elle sert à rendre la monnaie, donc ça évite de l'inflation parce que du coup les prix ne sont pas arrondis.
Oui.
Et cette
parce
pièce...
Parce que, je vous interromps, de toute façon on arrondit au cran supérieur.
C'est assez probable, on a vu comment ce qui s'est passé.
On va passer de 1,97 à 2, pas de 1,97.
Quand l'euro a été mis en place, on a bien vu les arrondis, dans quel sens il se faisait.
Bon.
Et donc, du coup, ça évite un peu l'inflation. Et surtout, si on multiplie le nombre de fois que ces pièces sont utilisées, ce qui compte, c'est la valeur qui est transportée par une pièce de 1 centime. Mmh. Si une pièce de 1 centime, elle est utilisée 1000 fois, 2000 fois, elle va véhiculer 1000 fois 1 centime. Donc du coup, le fait qu'elle ait coûté 1,2 centime n'a plus d'intérêt. Mmh. C'est comme quand vous vous achetez une casserole, au début elle vous coûte cher, vous faites une soupe dedans, bah, vous dites ma soupe elle est chère. Hein, bon. Mais si vous utilisez la casserole 100 oui. fois, 200 fois, au bout d'un certain temps, vous oubliez le prix de la casserole et vous vous concentrez sur le prix des légumes.
Oui, ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas trop entraîner derrière soi des casseroles. Mais on dématérialise de plus en plus.
Ah ça, c'est un autre sujet.
Oui, mais qui se rapproche quand même de la question de l'utilité de la monnaie. C'est vrai qu'il y a des cartes bancaires maintenant... On les passe au-dessus d'une petite machine électronique pour les petites sommes jusqu'à 20 euros, c'est ça ? Et on n'a plus besoin de monnaie. Donc est-ce que, à terme, si on se projette, ça ne condamne pas l'existence de la monnaie ?
Je pense qu'il y a plusieurs décennies, ceux qui ont inventé les billets de banque ont pensé que ça allait tuer les pièces.
C'est vrai.
Ceux qui ont inventé les chèques pensaient que ça allait tuer les billets.
Oui.
Ceux qui ont inventé les cartes bleues ont pensé que ça allait tuer les billets. Et vous voyez, on voit qu'il y a coexistence de tous les moyens de paiement. Je crois que ce qu'il faut pour nos concitoyens, c'est qu'au contraire, une facilité. Le paiement, ça doit être quelque chose de très, très, très flexible. Et donc, le fait d'avoir soit la carte bleue, soit le paiement sans contact sur un mobile, etc. Et en plus, quelques pièces de monnaie dans sa poche facilement accessible, on ne se pose pas de questions, on sort ses pièces et c'est vite fait. Mmh. Et donc, tout peut coexister et servir à la fluidité des échanges.
Nicolas Détiendorf, vous êtes écrivain. Cette monnaie, les Français ont toujours eu un grand attachement à leurs pièces. C'est important, la monnaie. On envisage sa disparition.
Moi, personnellement, j'ai une nostalgie des billets, mais de ces billets de banque français où on voyait des artistes, on voyait des compositeurs.
De la Croix.
Oui, il y avait De la Croix, il y avait Debussy, il y avait Rameau. Alors qu'en revanche, quand on voit les pièces d'euros, on se demande qui c'est. Ça, c'est plus.
C'est un petit message pour Christophe Beau.
Non, absolument pas.
Frapper une autre monnaie, c'est vrai. Donc une nostalgie.
Et même la fameuse pièce de 10 francs, moi quand j'étais gamin, cette grosse pièce faite par Georges Mathieu au début des années 70, c'est le côté un peu effectivement un peu triomphe industriel, c'était un bel objet.
Puis vous vous souvenez, ça valait beaucoup 10 francs à l'époque, c'était très précieux, je m'en rappelle. Christophe Beau, aujourd'hui, l'hôtel de la monnaie à Paris, vous avez instauré comme un plan de sauvegarde, vous êtes projeté dans l'avenir pour transformer le lieu, transformer tout cet endroit, tout ce quartier, tout ce Quai Conti.
Oui, parce que c'est un site qui est merveilleux, mais qui était très très peu connu des Français jusqu'ici. C'est une sorte de coffre-fort un peu replié sur lui-même. Et donc le projet vise essentiellement à l'ouvrir au public, d'où l'arrivée du restaurant Guy Savoy que je citais tout à l'heure, l'arrivée d'expositions d'art contemporain dans les salons du premier étage. Donc ça fait que le public peut venir à l'intérieur de ce qui était autrefois un coffre-fort. Donc on pénètre dans la monnaie. On
C'est vrai que j'ai vu une formidable expo David Lachapelle.
Alors ça, c'était en 2009.
C'était formidable. Et c'est un très beau lieu d'exposition.
Oui, et plus récemment, vous avez eu l'exposition Take Me I Am Yours, où les gens venaient avec un sac et pouvaient emporter les objets. Vrai. Donc ça a eu beaucoup de succès. Mm-hmm. Malheureusement, elle vient de se terminer. Mais bon, il y en aura d'autres dans les mois qui viennent. Et l'idée, c'est à travers ces expos, à travers le restaurant Guy Savoy, et bientôt, comme je le disais, à travers le parcours de visite dans les ateliers, l'idée, c'est de faire découvrir à la fois ce qu'on y fait, les métiers qui sont préservés, qui sont transmis de génération en génération, et aussi de faire découvrir ce magnifique joyau de l'architecture qui est cette manufacture du XVIIIe siècle. Donc les gens pourront à la fois voir le contenant et le contenu, le joyau architectural et les métiers qui sont encore préservés, et puis deviner en quelque sorte comment est-ce qu'on fabrique aujourd'hui des pièces de monnaie.
Mais ça veut dire qu'on verra les artisans à l'œuvre.
On verra les graveurs, on verra les machines, donc ce sera très palpable, ce sera très... très visuel et on pourra être vraiment au cœur de l'usine.
Pour eux, c'est pas une petite pression de se retrouver comme ça avec le public qui passe à quelques mètres.
C'est une saine pression.
Une saine pression. Merci beaucoup, Christophe Vaux. Merci à vous, Nicolas d'Étienne Dorf. Je rappelle que vous publiez La Monnaie de Paris, 1150 ans d'histoire. C'est aux éditions Albin Michel.
Et puis, je signale aussi l'apparition du Dictionnaire amoureux de Paris. C'est chez Plon. Vous dites que vous quitterez jamais Paris, c'est ça, Nicolas Dessienbois?
C'est 700 pages de déclaration d'amour à la capitale, de A à Z, voilà.
Et dans un instant, l'histoire d'une rencontre entre Simone Signoret, Yves Montand et Marilyn Monroe. Restez avec nous, les curieux.
Vous écoutez RTL.